du coq à l'âne.
Ok, 3, 2, 1, let's jam.
Nous sommes de retour, évidemment, autour de cette table avec Jean Coin, Patrick Faure, Michel Roussel, Pierre-Louis Rouny et Bernard Jossot. Alors, on est évidemment sur le dossier de la semaine, le dossier Mélenchon. Je voulais vous faire écouter quelque chose aussi, puisque Mélenchon, évidemment, dès le lendemain, s'est retrouvé chez Bourdin.
Ah oui.
Donc là, c'était combat de boxe, les deux coqs ensemble. Je vous propose d'écouter un petit extrait.
Vous n'êtes pas au-dessus des
mais
lois.
Mais personne n'a dit qu'on était au-dessus
si,
de la
vous.
Loi. Nous avons le droit.
Vous.
Non, non, non. Vous, Bourdin, vous allez vous calmer parce que je n'ai jamais dit ça. D'accord. Oui, vous allez vous. Mais les mots que vous employez.
Je vais.
Non, mais vous polémiquez là.
Ça.
Et vous polémiquez là.
Ça, je ne.
Non, mais vous rendez compte des mots que vous prononcez.
Écoutons. Vous avez regardé Quotidien.
Non, j'ai pas regardé, parce que le quotidien fait
regardons.
Des...
Eh ben, écoutons,
allez,
regardons.
C'était prévu d'avance, c'est le sketch mais organisé.
C'est pas le sketch organisé.
Oui, oui, allez, c'est
mais
bon,
vous saviez, vous savez,
non, non, je ne savais
qui
pas.
Qui a
je
filmé
sais pas qui,
qui a commencé à mettre en scène.
Moi.
C'est vous.
Bien
bon.
Sûr.
Bon,
bah. Et alors.
Et alors.
Mais la suite,
alors
quoi. Qu'est-ce que ça prouve.
Eh ben,
que je dois
suite...
me laisser faire.
Non.
Pour faire plaisir au système.
La suite est là.
Voilà, bravo.
Regardons là.
Allez, regardons là. Des images qui sont.
Je suis entré dans mon local. On n'est pas des voyous, on n'est pas des bandits. Quoi? Qui vous a donné cet ordre? Je suis un parlementaire.
Vous ne touchez pas, monsieur Mélenchon.
Vous ne me touchez pas.
Ne touchez pas.
La République, c'est moi. C'est moi qui suis parlementaire. Poussez-vous de là ou à moi cette porte.
Vous l'avez étranglé. Monsieur, ça fait deux fois, je vous le dis.
Ça, c'est Alexis Corbière.
Hé, je suis délégué, moi, monsieur. Monsieur, vous n'allez pas toucher comme ça. Vous n'allez pas toucher comme ça, monsieur. Je suis délégué. Là, ma porte. Faites deux fois, je vous le dis.
Parce qu'il y a un policier qui nous prend plus. Allez, vas-y, essaye de pousser pour voir.
Ne touchez pas,
touche pas,
touche pas.
Allez, touche pas pour moi. Touche-le, touche-le. Vous prenez pour qui? Touche-le. Vous n'êtes pas le procureur, vous. Un procureur avec un gilet pare-balles, un truc de police?
Oui, oui.
Celui que vous n'êtes plus.
Qui? C'est vous que je pousse.
Lui, là.
Mais c'est un procureur, il ne fait pas la justice, là.
Mais qu'est-ce que t'as, tête bête? Mais je t'emmerde, moi! J'ai 4 quartiers de noblesse! Je peux rentrer à cheval dans les églises, moi, si je veux! Mais je t'emmerde, moi, je t'emmerde, moi!
Vous voyez, tout à l'heure, quand je vous l'ai passé, vous avez dit « Ah ouais, ouais ».
Eh ben, ouais. Eh ben oui, c'était ça.
Hein, c'est exactement ça. C'est
ce
exactement
spectacle
ça.
D'un parti qui se veut démocratique.
Là, c'est quand même terrible, quoi. C'est, là, c'est quand même terrible.
C'est
là,
la, c'est
quand même terrible.
C'est parce la que réincarnation là, du Guéclin.
Là, on a quand même chaud, chaud avec Corbière qui gueule encore plus fort que Mélenchon. Hein. C'est impressionnant, impressionnant.
Non, mais c'est terrible.
Ah oui, c'est terrible.
Non, mais c'est terrible
quel
parce
spectacle
que, non, mais c'est terrible parce qu'il y a tellement d'autres choses qui sont importantes, qui se passent, qui méritent... Qu'on s'énerve.
Qu'on se mette en colère.
Qu'on se mette en colère.
Ouais, se mettre en colère.
Et parmi. Moi, avec Mélenchon, je n'ai pas que des désaccords. Je pense qu'il y a des combats qui sont des vrais combats.
Juste.
Voilà, des combats,
combats
justes. Mais cette attitude-là, effectivement, jette un voile sur tout ce qui peut parfois dire de légitime et de fort.
Alors, le problème aussi, c'est qu'il y a eu en plus une journaliste qui lui a posé la question.
Et oui.
Qui lui a dit, il y a quelque temps, vous avez effectivement dit ce que vous faites aujourd'hui de ne pas faire à donc François Fillon d'une part et Marine Le Pen d'autre part. Vous vous souvenez de ce passage-là? Et apparemment, il se souvenait pas. Apparemment.
Jean,
hein.
Comme vous disiez sur la 3 il y a quelques mois, quand vous pointiez les déboires judiciaires de Fillon et de Le Pen, vous étiez une décadence de la République. Hein?
Parce que... Et alors, qu'est-ce que ça veut dire?
Non, mais.
Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi votre question, madame? Je ne comprends pas ce que vous voulez
dire. À quelle époque vous disiez que bah, quelle oui, époque il n'y avait pas de respect?
Quelle époque?
Il y a 6 mois.
Il y a 6 mois.
Voilà.
Qu'est-ce que c'était
en
il y a 6 mois? Excusez-moi, je
mars,
ne me rappelle pas.
Au mois de mars, sur la 3, vous expliquez...
Ah, c'était la campagne électorale,
oui,
c'est ça?
Mais vous disiez
non,
que
au mois
par
de mars.
Rapport à Fillon...
Non, non, madame, vous ne savez pas de quoi vous parlez.
Mais si.
Non, vous dites n'importe quoi. Quelqu'un a-t-il une question formulée en français et à peu près compréhensible? Parce que moi, votre niveau me dépasse, je ne vous comprends pas.
Donc voilà,
alors, oh là c'est lent.
Là, voilà, c'est le sujet dont tu nous parlais à la pause. Donc voilà. Alors ton avis sur
non, c'est pas une question en français. C'est,
là, pour
c'est
moi,
c'est en français. Oui, tout à l'heure, on s'est un peu fourvoyé dans ce qu'on disait. Ce qu'on disait, qu'il disait que c'était pas du français. En fait, c'était sur la forme.
Oui,
vocabulaire. Ouais, non,
mais enfin, il a repris. Non, mais attends, si tu écoutes bien, il a repris son accent.
Oui, bien sûr.
Oui.
Il a ironisé. Bien, voilà, il a fait. Ouais. Donc, enfin, appelant un chat un chat. En tout cas, j'ai pas
mépris.
Peur de dire que je l'interprète comme ça. Là, autant tout à l'heure, je disais tout était calculé, je pense qu'il est habile. Là, il avait mis le curseur un peu trop haut et il s'est fait avoir à son propre jeu. C'est-à-dire que ce qu'il a fait, c'est peu pardonnable. Voilà, parce qu'il s'est moqué d'une journaliste Elle est devant tout le monde en disant qu'elle ne parle pas français.
Alors moi, je vous donnais mon avis.
Peut-être qu'il aurait eu un mec en face, il n'aurait pas fait ça.
Je pense que c'est une question de forme. Je pense que c'est une question de forme. Je pense qu'on peut se moquer d'un accent, on peut déconner sur un accent, on peut répondre avec l'accent marseillais à une personne qui vous parle en marseillais, mais vous répondez correctement. Vous n'êtes pas obligé d'aller l'acheter comme une merde. Puisque là, il a...
Je comprends pas ta question.
Il a rabaissé, quoi. Il avait très bien compris la question, oui. Il savait très bien de quoi il s'agissait. Eh bien, il fallait qu'il réponde à la limite avec l'accent de Marseille, puisque de toute façon, c'est un élu marseillais.
Il ne peut pas répondre.
Il aurait très bien pu répondre.
Et tu veux qu'il réponde quoi?
Eh bien, il fait amende honorable, et puis c'est tout.
Non,
qu'est-ce
mais
que
ça,
tu veux?
Pas possible.
Mais enfin, mais si, c'est possible. Moi, je trouve que...
Parce que tout le monde a compris la question.
Nous sommes tous des hommes. Jeannot, par exemple... est un homme, voilà, il a des faiblesses. Il a des faiblesses, Jeannot.
Aucune.
Non, bon, bah d'accord, ça commence bien. Alors Bernard, tu as des faiblesses. Ah non plus, bon, bah alors là, je suis le seul à avoir des faiblesses.
Non, moi je...
Donc tout ça pour vous dire que tout le monde peut avoir des faiblesses. Tu peux, effectivement, mais tu peux dire, effectivement, j'ai fait une connerie, j'ai dit des choses sur Le Pen, sur Fillon, parce que j'étais pas dans la même situation. Aujourd'hui, je me trouve dans la même situation, je me rends compte que j'ai dit une connerie, parce que c'est pas très agréable de se retrouver dans cette situation-là. Voilà.
Là, t'en demandes trop. Non, mais il aurait pu dire qu'il regrettait... peut-être
ce
de s'être emporté.
Et pour le coup, il l'a fait.
Mais qu'il trouvait que c'était quand même complètement injuste. Voilà, c'est tout. Ouais. Mais de là à dire qu'il revenait sur ce qu'il avait dit 6 mois avant, ça,
je pense. Un an et demi avant.
Je pense que
c'était au moment des élections. Oui,
c'est un connard irrespectueux. Parce que, non, je le dis. Parce que
ça s'est dit au moins.
C'est quand même malheureux de cette brave femme qui lui posait une question quand même relativement précise.
Et simple.
Simple.
Oui, bien sûr. Mais qui l'a embêté.
De se jouer d'elle.
Oui, qui l'a embêté.
Pour la rabaisser et puis, en plus de ça, se foutre la gueule de son accent, c'est inadmissible, inacceptable.
Moi, si j'avais été en face, j'aurais dit Teven Mac sur tes loupes. Parce que moi aussi, je peux avoir un accent. Teven Mac sur tes loupes.
C'est une baffe dans tes lunettes, non?
Non, dans les loupes, c'est les lèvres.
Ah, les loupes, c'est les lèvres.
Les loupes, voilà.
C'était les lunettes.
Puis Joa a dit, Tizot, t'es rentré à ta maison, t'as fait du flan. Et t'en reviens plus ici.
On dirait Jean-Philippe Janssen.
Oui, c'est la même famille. Tu sais qu'on est tous les deux du même coin.
Vous êtes pédé aussi.
Alors, justement, parlons-en. Les homosexuels. Marcel Campion. Je ne sais pas si vous avez suivi cette affaire de Marcel Campion. Non. Vous n'avez pas suivi?
Marcel Campion.
Marcel Campion.
Ah, Campion, pardon. Campion.
78 ans qui entretient des rapports exécrables avec la mairie de Paris.
Tu
le connais?
Ah oui, non, mais.
Oui, ça
non,
y est.
On rentre effectivement sur un terrain un peu compliqué.
Gras.
Ouais,
terrain gras.
Boueux.
Entretien de rapports vraiment exécrables avec la mairie de Paris et avec Anne Hidalgo. Il avait annoncé sa candidature aux prochaines municipales. Il a été filmé, vous savez, lors. D'une petite réunion en homophobe de première. Et il avait été donc invité à débattre face à Yann Brossa, qui est future tête de liste du Parti communiste pour les européennes et défenseur des droits LGBT. Voilà, parce qu'il est gay. Donc, il s'est retrouvé à la télé face à Marcel Campion. C'est parti en sucette, évidemment. Vous devez vous en douter. Alors, j'ai pris qu'un petit bout parce qu'il y avait 5 minutes.
J'ai pris qu'un petit bout.
Il fallait la sortir, celle-là. J'ai pris que la fin.
Tu as pris qu'à la fin.
J'ai pas la peine de la sortir.
Voilà. J'ai pris un tout petit bout. Tenez, écoutez, c'est la fin de leur échange.
Mais vous connaissez rien. Vous êtes un petit gamin. Vous connaissez rien. 94, j'ai fait une levée de fonds pour le SIDA.
Je peux répondre, simplement.
On va pas faire tout le débat là-dessus, en tout cas, ça c'est sûr.
Je vous ai peut-être sauvé la vie à l'époque.
Je vous ai peut-être sauvé la vie.
Voilà, ça c'est fait.
Ouais, mais j'ai pas compris pourquoi il lui dit ça.
Ça, c'est fait. Voilà.
Moralité, si tu es guéridon.
Voilà, si tu es guéridon. Et le problème avec Marcel Campion, c'est qu'il dit ça. Et qu'il n'a pas l'impression de...
Ah, oh, mais il était sincère.
Oui, il n'a pas l'impression sincère, de déraper, mais allègrement, quoi. Allègrement, il dérape complet, dit, voilà, mais il ne se rend pas compte. Si t'es là, c'est grâce à moi. En gros, c'est ce qu'il lui dit, quoi. Voilà, c'est un truc hallucinant. Et ce mec va se présenter à la mairie de Paris. Une réaction, Bernard?
Moi, la réaction, c'est surtout que... Dans le même temps, cette semaine, il y a eu une recrudescence. Il y a plusieurs personnes qui se sont fait taper dessus, à coups de casque, se faire
des agressions homophobes.
Des agressions homophobes qui se sont multipliées à Paris et ailleurs. Et voilà, toutes les fois qu'il y a des gens comme M. Campion qui tiennent les propos qu'ils tiennent, nécessairement, ça fait un peu remonter la pression. Je crois qu'aujourd'hui, on devrait avoir un discours plus apaisé et même que ça puisse venir, comment dire, comme un sujet de discussion est en soi contestable.
Et alors, ce qui est terrible, c'est que ce mec, quand vous l'entendez, et d'ailleurs, c'est des, j'allais dire, on entend souvent ça, vous savez, de dire mais moi, je suis pas raciste, moi, j'ai un copain qui est noir. Non, mais... ah, et là, il dit moi, je,
ah, bah,
mais moi, je suis pas homophobe, j'ai des copains qui sont pédés.
Ouais. Voilà. Et alors, j'ai donc, levé des fonds pour le SIDAction.
Et j'ai levé des fonds pour le SIDAction.
Il est très fier, il fait la roue.
Et il faisait.
Et il fait
faisait.
Plus.
Il fait plus. Il là, celle-là, il aurait fallu que tu la sortes il y a quelques mois, quand la roue était encore là, parce qu'elle n'y est plus. Il l'a démonté. Donc voilà.
Je croyais qu'elle avait cassé, non?
Non, non, il n'avait pas cassé. Bon, alors, on va passer à un autre sujet maintenant, parce que c'est compliqué avec
c'est
Jeannot.
Lourd, hein. Hein.
C'est compliqué. Non, mais il y a des
moi, je comprends une blague sur deux avec Jeannot, c'est embêtant.
Il y a des moments, si tu veux, tu peux le suivre. Hein, des moments, tu le suis allègrement parce qu'il est en forme. Il y a des moments, on sent que bon, il est un peu fatigué. Donc, il a un peu de mal. Il a un peu de mal. Je voulais vous parler de musique très rapidement. Mais c'est un petit truc. Voilà, c'est quelque chose qui m'a étonné. Je voulais avoir votre avis. C'est une chanson qui fait un tabac depuis le mois d'août, qui a été pratiquement numéro un des ventes de singles, qui est numéro un aujourd'hui des ventes d'albums. Le groupe s'appelle Trois Cafés Gourmands.
Ah, c'est les chanteurs de la Lozère, là.
La Corrèze.
La Corrèze.
Absolument,
ah ouais,
tout à fait.
C'est vrai que c'est...
Alors, voilà, c'est ça la
c'est
chanson.
C'est quelque chose, ouais.
Vous devez la connaître, je suppose, tenez.
Allez, fais tes bagages, viens rejoindre tes amis. On veut du Claudie Musette à en perdre la tête. On veut un dernier Chabrol, un petit goût de gnoll. Les yeux de nos grands-mères, la voix de nos grands-pères.
Est-ce que vous connaissez cette chanson?
Ouais, ouais. Non, on ne connaît pas, non.
Ah, vous connaissez pas,
je préfère pas connaître, mais bon, après.
Mais non, mais justement.
Ouais, c'est Martique, c'est pas mal, hein, avec ouais, les grands-mères, les yeux des grands-mères, le Chabrol, l'agneau.
Ils ont fait une promotion pour le département. Hein.
Ah, et ouais. Ben, voilà, c'est devenu. Ouais. Mais quand on voit les groupes de rap, de R&B, de hip-hop, etc., qui fonctionnent beaucoup en ce moment, et qu'on voit arriver cet ovni qui passe devant tout le monde, voilà, premier des ventes d'albums en France. Donc c'est quand même assez hallucinant. Ouais. Voilà, mais
il y a des jeunes qui font de belles choses aussi.
Mais qu'est-ce qu'ils racontent?
Big Flo et Oli.
Ils racontent l'histoire. On oui, Big Flo et Oli, oui, ouais. Absolument, les deux frangins, ouais. Excellent. Ils racontent l'histoire de leur terre.
Ouais. Mais en disant quoi exactement?
En disant que voilà, c'est leur racine, et leur racine, c'est ce qui est le plus important pour eux. Donc c'est comme si demain on avait un groupe au Alpin.
Nous on fait des tourtons.
Voilà, et puis des champignons. On mange des tourtons, on va chercher des champignons. Tu me donnes une idée.
Ouais,
on va faire une chanson.
On va la faire.
Allez,
ouais.
Pour la prochaine,
allez,
je prends la musique et je vous mets ça, allez, à la sauce Hautes-Alpes. Chiche.
Ouais,
allez, chiche, c'est bon. Donc, c'est une chanson promo pour la Corrèze. Mais c'est une chanson que ces trois jeunes ont fait. Et ils sont devenus des stars du jour au lendemain, comme ça. C'est assez hallucinant. Mais ce qui est étonnant, c'est ça, je ne comprends pas. C'est le fait
ça
que...
Ça marche.
Voilà. Ouais. Pourquoi cette chanson-là, aujourd'hui, marche?
Ah, c'est un peu léger, je pense. Parce que c'est justement, tu as une ambiance légère, tu as quelque chose qui fait un peu du bien
le
à la
côté
tête,
festif.
Quoi,
qui
fait dans les noces et banquets, ça passe.
Moi, j'ai un petit. Il y a quelque chose qui me turlupine là.
Vas-y, dis-moi.
Est-ce que c'est pas aussi cette idée de retrouver. Mais,
le racines, côté racine, tu veux
en,
dire
en disant, voilà, nous on a des racines et vous qui êtes là.
Tu penses que c'est
le rapport qu'il pourrait y avoir avec. Le problème de l'immigration qui est en France depuis quelques mois.
Oui, moi ça me.
Je suis quand même circonspect.
Mais au moins, au minimum, circonspect.
Même si c'est ça, ils ont quand même le droit de chanter. Ils ont le droit de le faire.
Bien sûr, tout à fait. Mais moi, je ne voyais pas le côté. Toi, tu vois le côté pervers de la chanson.
Le second degré.
Approche-toi bien.
Il y a un peu de second degré dans cette question qui me.
Ouais, alors ils n'ont pas le droit.
Attends, Bernard, si on ne peut pas le faire chez nous, c'est grave. Attendez, laissez passer Bernard.
Je ne connais pas, je ne dis pas qu'il y a a priori une arrière-pensée, mais on est dans un tel contexte aujourd'hui que cette idée de toujours en revenir au local, aux choses qui nous rassemblent, nous Français, me fait un peu peur.
Mais c'est pas nous Français, le gars,
ou nous Corréziens, ou nous Alpins, ou nous Grenoblois, c'est pas le problème.
Ils ne s'opposent pas à quelqu'un,
ouais, non.
Ils parlent d'eux en positif.
Pas. Je suis pas.
Ah non, moi je suis pas d'accord.
Alors
là, je trouve que c'est opposé, c'est divisé.
Attends.
C'est du communautarisme que de justement de penser ça.
Oui, alors, c'est divisé. Ouais. Je comprends ce que veut dire Bernard.
La culture, elle peut rassembler au-delà des gens qui pratiquent cette culture.
Mais je comprends ce que dit Bernard.
Moi, ouais, j'entends aussi.
Moi, ce que
j'ai pas envie de rentrer là-dedans parce que justement, on rentre dans la division.
Là, à mon avis, vous interprétez des choses qui n'en sont pas parce que. C'est uniquement une opération entre copains de monter une chanson comme ça qui va passer dans les bals corréziens et dans les salles.
Ben là, c'est dans les bals c'est toute la France. Hein,
on va dire que c'est un tube et il le restera. Exactement. Il n'y en aura pas
d'autres. Non, mais Jeannot.
Par exemple, cet été, on a eu un été français d'Indochine aussi. Ah oui. Ça, c'est caractéristique. Il y a quand même. Effectivement, par contre, là, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'il y a une réminiscence du sentiment d'être français, de la fierté de la France et de défendre ses valeurs, ça c'est clair. Quand tu regardes un petit peu le texte de cette chanson, qui est devenue un tube d'ailleurs, elle est très, très belle.
Oui. Ce que je voulais dire tout à l'heure, en sujet de la réaction de Bernard, qui est très intéressant, c'est que cette chanson n'a peut-être pas été écrite, et je ne pense pas qu'elle ait été écrite pour ça. Je pense qu'en toute sincérité, ces trois, les deux gars et la fille qui ont écrit cette chanson, c'était pour leur pays, pour leur racine, pour leur région, pour, voilà, qu'ils aiment beaucoup. Mais ça peut effectivement... être pris au second degré, le second degré dont tu parlais, peut-être pour certaines personnes.
Et peut-être être un peu récupéré par d'autres qui auront des arrière-pensées, particulières. Voilà.
Par contre, j'ai beaucoup apprécié l'utilisation, l'emploi du terme turlupiné.
Je doutais que ça te ferait plaisir.
C'est comme
de temps en temps, j'essaie de le placer. Bon, c'est pas simple toujours, mais la turlupine, ça, je sais que t'aimes bien.
Je peux vous raconter une contrepétrie.
Mais je t'en prie, avec plaisir. C'est toujours un plaisir des contrepétries.
Tu vas arriver à pied par la Chine ou pas ?
Non, pas du tout. C'était Dominique Strauss-Kahn, paraît-il, c'est la vérité. C'est que.
Dominique Strauss-Kahn qui, au
paradis. Saint-Jeannot.
Dominique Strauss-Kahn qui était d'ailleurs en lice pour. Être ministre de l'Intérieur. Intérieur de qui, on ne sait pas, mais...
il avait donc un cas précis à solutionner, c'était le cas de la Corée du Sud.
Et il du avait Nord, dit à ses proches, plutôt du Nord, d'ailleurs. Plutôt du Nord.
Ce cas de Corée me turlupine.
Ce cas de Corée me turlupine.
Qui est là, tu as... une excellente contrepétrie.
C'est une excellente... Ah, tu la connais, toi? Ah, moi, je ne la vois pas, là. Recommence.
Parce qu'il faut répéter, là.
Elle est double.
C'est double.
Ah, c'est une contrepétrie à tiroir.
Ce cas... de Corée me turlupine ou ce cul de curé me tord lapine.
Oh non ! Mais nous sommes dimanche matin, Jeannot !
C'est pas possible !
Non, c'est pas possible ! Comment tu veux qu'on s'en sorte ?
Vite, mets le jingle de fer.
Non, c'est... Attends, Jeannot !
Faut qu'on se barre, là, on va se faire tirer dessus.
Non, mais c'est pas vrai, quoi.
C'est un dessin.
On peut revenir à ce qu'on disait avant.
Vas-y. Oui. Je cherche quelque chose. Vas-y.
Pour ce que disait Bernard, c'est vrai qu'il y a eu des chansons, les Vendéennes là, qui chantent masqués et tout, qui là sont carrément des gens du Front National et des souverainistes qui sont sur ce registre-là. Oui, mais puis là, effectivement, c'est du lourd. Je sais plus comment elle s'appelle.
La chanson ?
Non, les chanteuses. Il y a un groupe de chanteuses. Vendéennes et qui sont carrément, oui, c'est des chansons racistes, Restez chez vous.
Ah non, je ne connais pas.
On est sur le même registre.
Je ne connais pas.
Pour la prochaine fois, on regarde.
D'accord, ok.
Mais il ne faut pas oublier que tout ça n'est qu'une histoire de commerce, on va dire. C'est du commerce, donc c'est clair que tu prends le disque de Johnny Hallyday qui est sorti jeudi soir, donc à minuit, ou minuit 01, comme on a annoncé.
Et il y avait des gens qui étaient devant la porte.
Ben tu tout est commerce, je veux dire.
Bien sûr.
Après, tu trouves ton public, évidemment. Quand tu chantes des chansons racistes, tu auras toujours des connards pour acheter la chanson.
Bien sûr. Mais d'un autre côté, je reste persuadé. C'est vrai,
question de segmentation.
Je reste persuadé que ces trois gentils jeunes gens de trois cafés gourmands, ils ont fait ça en tout bien, tout honneur.
Oui, tout à fait, voilà. Bien sûr.
En tout bien, tout honneur.
Vous
et que, et que je pense qu'ils s'imaginaient même pas un quart de seconde qu'ils seraient numéro un des ventes d'albums en France.
Patrick Hernandez, lorsqu'il a sorti
Born to be Alive.
Born to be Alive, bon, c'est clair qu'il imaginait pas que ça allait
mais subvenir c'est, en fait à ses besoins, pendant jusqu'à la fin de ses jours.
Tout à fait, parce qu'il doit engranger à peu près 2000 ou 2500 euros par jour avec ça.
Non, c'est un peu moins, mais il engrange. Ouais. Il engrange beaucoup d'argent grâce aux droits de cette chanson.
Naître pour être en vie, c'était quand même pas grand-chose comme
parole. Non, être, c'est ça, c'est naître pour être en vie.
La mère de Charles Trenet a toujours été en tête aussi du hit parade mondial.
La mère de Charles
Trenet.
Je ne savais pas qu'elle chantait.
La mère. C'est un clapotis.
Alors, parce que moi, je pensais que Charles Trenet, je savais qu'il chantait, mais je ne savais pas que sa mère chantait.
La mère de Charles Trenet, on l'a bien connue dans les émissions comme Radioscopie de Jacques Chancel.
Jacques Chancel.
À la télé. Donc c'est vrai qu'il amenait toujours sa mère, Charles Trenet.
Bah oui. Ouais. Voilà. Bah oui. Il a traîné toujours avec elle, c'est ça.
Tout à fait.
Oh non, mais ça va très fort. Oui, cela dit, oui, des chansons antiracistes, il y en a eu aussi. Des chansons qui prévenaient sur... voilà, et j'en ai retrouvé une il n'y a pas longtemps, qui est Poulailler Song. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette chanson.
Ah, ça me dit quelque chose. Il n'y a pas...
C'est Côte qui en est l'auteur, non?
Non, c'est Souchon. C'est Souchon.
Oui, c'est ça, oui.
C'est Souchon. Tenez, je mets un petit bout.
De la volaille qui fait l'opinion. Ils disent, on peut pas aimer tout Paris, n'est-ce pas? Il y a des endroits la nuit où les peaux qui vous font la peau sont plus bronzées que nos petits poulbeaux. Mais comprenez-moi, là j'ai là-bas, c'est pas ce qu'il faut sous nos climats. Mais comprenez-moi, à Rochechouart, il y a des taxis qui ont peur du noir. Les belles basses-cours à bijoux. On entend la conversation de la volaille qui fait l'opinion. Que font ces jeunes assis par terre, habillés comme des traits de misère? On dirait qu'ils n'aiment pas le travail, ça nous prépare une belle pagaille. Mais comprenez-moi, c'est inquiétant, nous vivons des temps décadents. Mais comprenez-moi, le respect se perd dans les usines de mon grand-père.
Et après, 1977,
c'est fou, hein. Pierre Marly-Gaumont aussi à ce moment-là. Oui, tu peux te poser la question.
C'est spécifiquement parisien, ça.
Oh. Non, il n'y a rien de parisien là-dedans.
D'abord, ce n'est pas spécifiquement parisien, c'est quand même vrai partout. Mais à Paris en particulier, je crois que cette semaine, il y a encore eu un épisode dans le 16e arrondissement où les gens se sont offusqués parce qu'il y avait quelques migrants qui avaient été accueillis dans un centre. Et alors là, les jeunes filles ne pouvaient plus aller à l'école et au collège. Il fallait se méfier de tout. Et ils en appelaient à la police, à la justice, à l'armée pour qu'on vienne enfin sécuriser le 16e arrondissement.
J'avais choisi cette chanson-là de 1977. 87, 97, 2007, 2007, ça fait 40 ans. Ouais. Et vous entendez les paroles. Ouais. Voilà, c'est tout. C'est des paroles d'aujourd'hui. C'est des paroles d'aujourd'hui. Voilà. Oui, la djellaba, c'est parce qu'il faut sous notre climat. Il y a des taxis qui ont peur du noir. Voilà. Ces traînes que font ces gens assis par terre, habillés comme des traînes misères. On dirait qu'ils n'aiment pas le travail. Ça nous prépare une belle pagaille. Et comprenez-moi, le respect se perd dans les usines de nos grands-pères. Mais ce sont des termes aujourd'hui qui pourraient être chantés. C'est exactement pareil.
Ouais, on est exactement. Plus,
non, tu le dis plus. Tu le chantes plus.
Et 40 ans, c'est presque deux générations.
Voilà, exactement.
C'est
pour dire que...
Les idées comme ça...
C'est pour dire que nos politiques, en 40 ans, n'ont pas fait grand-chose.
C'est ça.
Bernard, là, mon vieux, là, je te laisse parler parce que
la balle est dans ton camp.
Maintenant, tu peux dire... Maintenant, tu es plus politique, donc tu peux te lâcher et dire ce que tu penses.
Tu peux.
Moi, quand j'écoute cette chanson-là, il y a 40 ans... et qui est d'actualité encore aujourd'hui, je dis qu'il n'y a rien à changer. Non, rien n'a changé. Tout a continué.
Ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup changé.
D'accord. Laissez parler Bernard, s'il vous plaît.
En pire, d'une certaine manière, c'est que ce que disait Souchon, en gros, c'est que dans les quartiers favorisés, on avait du mal à accepter la diversité. Or, aujourd'hui, le problème, c'est que la diversité...
On l'accepte nulle part.
On a plus mal à accepter que ce soit. Et ça, c'est un vrai problème.
C'est un vrai problème, tu as raison.
Et c'est, me semble-t-il, quand même le problème essentiel d'aujourd'hui. C'est-à-dire que, alors même qu'il n'y a pas plus d'agressions que ce qu'il y en avait, il y en a peut-être probablement beaucoup moins. qu'il y a des gens qui sont là à nos portes, qui se noient par dizaines de milliers dans la Méditerranée, et on en est aujourd'hui à un repli sur soi qui est, semble-t-il, condamnable.
Il y a une conjoncture économique qui aujourd'hui préoccupe le commun des mortels.
Mais qui n'a rien à voir avec le problème.
Il faut faire attention à ça.
Non. Aujourd'hui, le problème des migrants, c'est quelques milliers, et on fait comme si c'était un problème extraordinaire. Mais on a accueilli avant, par millions, des gens qui venaient d'ailleurs.
Alors, des Italiens, des Polonais.
Polonais, des Italiens, des gens qui venaient du Vietnam, qui venaient d'Inde, qui venaient de enfin,
mais la conjoncture était peut-être différente.
Mais non, ce n'est pas une histoire de conjoncture. C'est pas un problème de conjoncture. C'est juste au moins un besoin d'humanité. Et qu'on ne peut pas laisser, comme on l'a fait ces derniers mois, ces dernières semaines, se noyer par milliers des gens dans la Méditerranée. Je pense que quelque chose qui viendra flétrir la mandature de M. Macron, c'est entre autres de n'avoir pas accordé, par exemple,
un pavillon
à l'Aquarius.
Ouais. Alors,
et ce genre de choses qui sont tellement simples et qui feraient honneur à la France parce que ça fait partie de sa tradition.
Enfin, quand on arrive à penser de façon beaucoup plus large que c'est la faute de ces étrangers, qu'ils soient nombreux ou pas, qu'il faut les remettre dehors, c'est que tu es vraiment malheureux. Et ce que ça prouve quand même, c'est qu'il y a quand même donc de plus en plus de gens malheureux.
Oui.
Voilà. Et donc, Thierry a raison. Enfin, il a raison. Je partage son avis, parce que c'est notre façon de voir les choses. C'est que les politiques, ils ont peut-être fait ce qu'ils pouvaient, mais ils n'ont pas réussi grand-chose, parce qu'ils sont de plus en plus nombreux. C'était le cliché de Souchon de dire qu'il y avait que la bourgeoisie bien pensante, qui avait l'habitude de vivre dans le luxe, etc., qui pouvait penser ça parce qu'ils ne faisaient pas partie du même monde, et avec une réflexion très aristocratique du monde. Mais maintenant, c'est beaucoup plus populaire, populiste, et qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est la faute de ces gens.
Tu crois que le nazisme est né clos, ainsi que les chemises brunes de chez Mussolini, c'est pareil, c'est suite au conflit mondial, au premier conflit mondial, où il y a eu un tas d'insatisfactions qui se sont développées.
Bien sûr.
La pauvreté est grandissante, la dévaluation constante du marque allemand, et l'échec de la République de Weimar ont conduit tout droit, évidemment, Hitler au pouvoir. Bon, ben c'est ça.
Est-ce que c'était la faute des Juifs?
Pas du tout.
Ouais. Et qui a été mis comme
il fallait trouver de l'argent. Il fallait trouver de l'argent. Donc ils sont.
Il faut trouver un bouc émissaire.
C'est ça. Bouc émissaire aujourd'hui, ce ne sont pas ces gens qui, après tout, ne cherchent. On ne peut que les comprendre.
Il ne faut pas faire le procès, effectivement, des migrants. Sauf qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a un développement démographique planétaire. Et aujourd'hui, la mondialisation, là, au moins, se mérite de regrouper tout ça. De 30%, c'est-à-dire d'environ 2 milliards d'individus, dont 1 milliard en Afrique. Il est clair que si on ne règle pas le problème d'une manière ou d'une autre, parce que ça coûtera effectivement aux pays développés, ça va leur coûter de l'argent, soit pour structurer l'Afrique, et les gens resteront chez eux peut-être, parce que ça sera aussi un développement à un moment donné qui sera souhaité, soit on n'y arrive pas, et puisqu'ils ont un développement démographique sans précédent, et c'est toujours sans précédent, eh bien oui, ils n'auront pas d'autre choix envers et contre tout que de traverser la Méditerranée pour venir sur l'Eldorado. On ne sait pas combien de temps, parce que l'Eldorado, aujourd'hui, il aura aussi ses limites. Mmh. Alors, moi, j'entends bien qu'aujourd'hui, il y a peut-être que des centaines de milliers de migrants. Il y en a malheureusement.
Quelques milliers.
Je ne sais pas. J'en sais rien.
Après, il y a le changement climatique aussi. Je souhaite que ce soit
des milliers, parce que des centaines de milliers, ça veut dire que le phénomène est encore plus grave. Sauf qu'aujourd'hui, il faut être vraiment initié et être dans le giron des associations pour avoir les vrais chiffres. Mmh. Aujourd'hui, nous, on n'en sait rien. On nous annonce des milliers de gens qui se noient, et ça, c'est intolérable. Je dis bien que c'est intolérable. On peut être contre le phénomène, mais on ne peut pas être contre la misère de l'humanité. Sauf qu'une humanité, je vais rebondir sur Mélenchon. L'intelligence aujourd'hui, elle ne sert pas l'humanité, parce qu'il y a longtemps qu'elle aurait mis un frein sur certaines choses, elle la dessert. Aujourd'hui, je vois que l'intelligence, il faut toujours payer les gens, et notamment en France. En plus, vous avez des bagages, vous êtes censé être payé mieux parce que vous êtes beaucoup plus utile. Mais j'avoue, très honnêtement, je veux bien être critiquable là-dessus, qu'on est toujours dans un merdier et qu'on ne s'en sortira pas comme ça. Et que, probablement, un conflit sans précédent est annoncé.
Là encore une fois, ces deux derniers jours, il suffit de lire les journaux, on vient d'annoncer encore un scandale d'évasion fiscale à hauteur de 5 milliards par an par le biais de, je ne sais plus comment ça s'appelle, les COMEX.
Voilà.
Il y en a d'autres. Aujourd'hui, le problème de l'Occident élargi, c'est pas le manque d'argent, c'est l'incapacité qu'il a aujourd'hui à le répartir de manière normale. Et pour le répartir, encore faut-il retrouver la capacité de percevoir l'impôt. Et quand on ne fait rien, en tout cas pas assez sur l'évasion fiscale, on fait en sorte que toutes les petites choses deviennent un problème. Qu'on ne sait plus gérer la santé, qu'on ne sait plus gérer l'éducation, qu'on ne sait plus gérer l'apport, mais encore une fois, qui est plutôt ridicule, des migrants. D'autant que l'immigration, ça a toujours été une richesse pour tous les pays du monde. Et ça continue.
Si on ne sait plus gérer, c'est parce qu'on a géré avec de l'argent qu'on n'avait pas pendant de longues années. Il y a un moment, on a géré avec l'argent qu'on n'avait pas et que c'est facile de gérer avec l'argent qu'on n'a pas et qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'arrive un moment, on a du mal. Ce que je voulais vous dire, c'est que là, on était en 77 avec Souchon. Je veux dire, quand je vous disais qu'il y a 40 ans, c'était comme ça et que ça ne bouge pas aujourd'hui, c'est qu'on va remonter 20 ans. C'est-à-dire, on arrive au début des années 90. Au début des années 90, je vous fais écouter ça et vous allez voir.
Je crois qu'un des grands problèmes qui va se poser en France dans les années à venir, c'est comment améliorer l'image de la classe politique auprès des Français. Il y a là un problème de communication majeur.
Et là, les publicitaires et les médias peuvent beaucoup nous aider. Tout à fait, tout à fait.
Il y a le problème du racisme. Comment enrayer ce fléau?
Non, moi j'ai confiance dans le peuple français. Au fond, il est tolérant, généreux.
Oui, enfin 15% de vote pour l'extrême droite. Beaucoup plus même par endroit, c'est tout de même.
Je sais, c'est terrible.
Non, c'est même une honte. C'est une véritable honte.
Et vous, Michou, qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, je pense que c'est beaucoup plus facile d'être contre le racisme quand on habite à Neuilly, quand on habite à Saint-Denis. Hein. Vous voyez, moi, par exemple, je suis de Saint-Denis, et ben, je suis raciste. Et vous, par exemple, vous habitez cette maison et vous n'êtes pas raciste, voyez?
Franchement, Michou, vous vous considérez comme raciste?
Ah oui, franchement, oui. Moi, les étrangers, je vis avec, alors je peux pas les saquer, voyez? Ils foutent rien, ils sont sales, ils nous piquent nos bagnoles, on leur file des appartements en priorité sur les Français, ils gagnent plus de fric que nous avec toutes les allocations qu'ils ont. Dans les écoles, nos mômes n'apprennent plus rien parce qu'il y a 70% d'enfants étrangers qui parlent pour un mot de français. Ils nous font chier avec leurs foulards et encore faudrait qu'on paye pour leur construire des mosquées, alors vous avez qu'à voir.
Mais enfin, qu'est-ce que vous faites du droit à la différence, de la tolérance, de l'idéal de terre d'accueil de la France?
Je sais pas ce que j'en fais de ça, moi. J'en sais rien.
Mais c'est très mal d'être raciste, ça ne se fait pas, c'est immoral.
Ah bah oui, mais on se refait pas, hein.
Mais alors, vous votez Le Pen?
Ah non, moi je vote pas, moi. J'ai pas de domicile. Non, justement, parce que ça fait 5 ans que mon frère a demandé un 3 pièces, mais comme son fils est mort, on lui a refusé. Et alors du coup, moi j'ai pas de domicile, parce que sa femme, elle a un cancer. Et quand à l'hôpital, ils l'ont renvoyé, vu qu'elle était en phase terminale.
Bon, enfin, d'accord, mais si vous votiez, vous voteriez Le Pen?
Mais tous les Arabes que je connais à Saint-Denis sont dans les 4, 5 ou 6 pièces, hein. Ils ont beaucoup d'enfants, c'est forcé.
Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que ça n'arrange en rien vos problèmes personnels d'être raciste.
Ah bah oui, mais moi ce que je comprends, c'est que les 3/4 de la planète, ils sont dans la merde. Alors ils essayent tous de se radiner là où c'est moins la merde, hein, c'est-à-dire chez nous. Et puis là, faut bien que quelqu'un se pousse pour leur faire de la place et leur filer à bouffer, ça c'est sûr.
Je ne vous fais pas dire.
Ah oui, mais jusqu'à présent, ceux qui se sont poussés pour leur faire de la place, c'est les mecs de Saint-Denis, hein, c'est pour les mecs de Neuilly. Et puis les mecs de Saint-Denis, en plus, faut qu'ils se poussent, mon gars, dans le sourire, hein, parce que sinon c'est immoral, vous voyez.
Dites-moi, Michou, vous ne seriez pas un petit peu communiste?
Ah non, je suis pas communiste, sinon il y a longtemps que je leur ai eu mon appartement et mon frère aussi.
Mais il faut vous dépêcher de prendre notre terre du parti avant qu'ils disparaissent complètement.
Voilà. Ouais.
Alors, c'est tellement vrai.
Évidemment, c'est caricatural.
Ah non, pas du tout.
Pas du tout. On était en 1992, c'était Colin Serrault avec le film La Crise. Voilà, vous avez reconnu Michou dans le rôle, Patrick Timsit dans le rôle de Michou. Donc voilà. Donc,
film La Crise d'ailleurs.
Oui, excellent film. Tout ça pour vous dire que, voilà, c'est vrai que j'ai le sentiment que rien ne bouge, quoi. J'ai le sentiment que rien ne bouge. Alors, comme tu dis, ça s'aggrave peut-être, hein, Bernard.
Oui.
Peut-être non, que ça s'aggrave.
Non, mais ce qui s'aggrave, c'est le sentiment de rejet permanent. C'est-à-dire que la tolérance aujourd'hui est à un niveau extrêmement bas. C'est plutôt ça le problème. C'est qu'il n'y a plus de capacité à accepter l'autre. Mais elle s'est devenue, voilà, c'est comme ça. C'est, ouais. Je ne dis pas que c'est... Moi, je ne sais pas comment on est... Enfin, si, je sais à peu près comment on est arrivé là. C'est plus que la crise, plus que le fait d'avoir moins qu'avant, parce qu'il y a un peu moins avant, qu'avant, probablement. Peut-être qu'effectivement, il y a eu une baisse de pouvoir d'achat pour une partie de la population. Et ça, c'est une réalité. La pauvreté a gagné. Mais au-delà de ça, il y a ce sentiment qui a été instillé petit à petit. C'est-à-dire que... ces idées de populistes ont gagné en crédibilité au fur et à mesure que les médias les ont
mise en avant.
Tu crois ça? Ah oui, mais complètement.
Je crois que les médias sont responsables aussi
de
tout ça.
Mais moi, je pense que aujourd'hui, les médias sont responsables quand même, non pas de tout, mais une bonne partie des maux aujourd'hui de la démocratie.
En clair, il faut cacher une certaine réalité.
Non, c'est pas ça. Il faut toujours l'étayer. Et toutes les fois, et moi j'écoute la radio, et encore la radio n'est pas le pire des médias, et on entend bien que ce qui est dit là n'est la plupart du temps pas vérifié, pas étayé sur des chiffres, pas étayé sur des études, mais n'est que l'écho,
le ressenti de
ce qui est dit. Le propre du journalisme, c'est a priori non seulement d'avoir une information, mais de la recouper, d'aller jusqu'au bout, de la fouiller. Et de plus en plus, et ça, c'est un problème de ça va avec l'immédiateté de ce qu'on disait tout à l'heure sur les réseaux sociaux, c'est le fait que tout doit être dit, commenté dans la minute, fait qu'il n'y a plus ce travail de fond de savoir si ce qu'on dit est vrai ou est faux, et comme en plus, ce qu'on dit là est effacé dans l'heure qui suit par un autre
événement sujet, qui va arriver.
Fait que, alors, heureusement qu'il y a un peu cette nouvelle. Cette idée des check news, de fait de
ah oui, pour vérifier toutes ces informations.
Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a tellement d'informations qui sont ou erronées, ou assez peu étayées, ou pas recoupées, que de toute façon, le fait de vouloir, in fine, savoir si ça a été vrai ou faux est déjà quasiment impossible parce que le travail est beaucoup trop important.
Ou alors, il faut prendre un peu de
temps.
La
deuxième chose, c'est que les gens qui regardent, ou en tout cas qui s'intéressent à la véracité de ce qui a été annoncé et qui vont voir s'il y a effectivement des gens qui se sont donné la peine de vérifier, sont extrêmement, c'est une part extrêmement faible de la population.
Ouais.
Donc, de fait, gagnent en permanence les idées qui sont mainstream, qui viennent par-dessus toutes les autres. Et une de ces idées est effectivement que le fait qu'il y ait de l'immigration est une catastrophe internationale.
Pour chaque pays.
Je ne sais pas si parmi vous, il y en a eu qui ont eu la chance de participer à la dernière manifestation de l'UPE. On a reçu le philosophe Raphaël
Eindhoven.
Je ne pourrais pas dire exactement ce qu'il a dit, forcément, parce que je ne suis que moi, mais c'était intéressant parce qu'il faisait un rapport entre la nature humaine et l'évolution technologique. Et on a l'impression, c'est en rapport avec ce que tu dis, hein, Thierry, on a l'impression que parce qu'on est de plus en plus évolué technologiquement, que la nature humaine et que l'homme a évolué lui aussi. Et en fait, il rappelait justement, mais sans, en étant autant à charge qu'à décharge, parce que l'homme, il a des bons côtés et des mauvais côtés, sans vouloir faire une parabole avec la religion catholique notamment, mais il rappelait qu'en fait, l'homme, il reste homme, voilà. Et avec ses bons côtés, ses mauvais côtés, et qu'il y a 200 ans en arrière, parce que c'est vrai qu'il y a eu quand même une cassure avec la Révolution française, ouais, notamment. Hein. Mais voilà, l'homme, il a toujours ses travers. Et c'est pour ça qu'il y a 40 ans, il y avait des chanteurs qui disaient ça. Et on a l'impression finalement que les choses n'ont pas changé et que c'est grave. Mais finalement, c'est comme ça.
Ouais.
Et on ne changera pas notre nature.
Voilà. Ouais. Oui, mais l'homme est l'homme. Mais est l'homme.
On peut travailler. De là, systématiquement, comment dire, dire que les penchants les plus graveleux, ceux qui tirent l'humanité vers le bas sont à mettre au même niveau que ce qui élève la pensée, je pense que c'est pas bien et qu'aujourd'hui ce nivellement là est systématique.
Voilà. Alors on va terminer avec cette phrase qui était magnifique puisque tu parles de l'homme et l'homme, hein, en gros, et ben on terminera avec la chanson de Brel, hein, qui est le bon Dieu, qui s'appelle, qui est sur son dernier album, sorti en 77-78, et où il dit dans cette chanson, « Toi, si tu étais le bon Dieu, mais tu es beaucoup mieux, tu es un homme. » Et voilà comment il termine sa chanson.
Ça, c'est la Révolution française.
Exactement.
L'humanisme.
Alors, et ce sera le mot de la fin.
C'est pas pareil.
Merci.
On en discute. L'humanisme, ouais,
ça, Bernard Jossot d'être venu avec
merci
nous, Michel Roussel, Jean Cointe qui nous a quitté
sur ce cas de Corée,
sur le sur la pointe des pieds. Patrick Faure et Pierre Lurouni. On se retrouve bien sûr dimanche prochain pour un autre numéro du Coq à l'âne. Portez-vous bien. Et à dimanche.